soir. 98.1. Toujours Radio X.
C'est notre ami Kim Savard qui est au bout du fil. Salut Kim.
Salut.
Ça va bien?
Oui, vous autres aussi?
Oui, très bien. Et désolé pour toutes les images que je viens de planter dans ton esprit, là.
Écoute, moi, je suis par feu, hein. Il n'y a pas de trouble, là.
Ouais. Eh bien, parle-nous, toi, comment se sont passées tes grossesses? Dans le cas de ma blonde, les deux, le premier trimestre, épouvantable, des nausées. Puis elle me disait, tu sais, l'autre jour, moi, j'avais une gastro, là, au mois de novembre dernier, puis je me dis, oh, j'aime mieux mourir. Ma blonde me disait, va donc chier, toi, t'aimes mieux mourir avec ton 48 heures de gastro. Tandis qu'elle, ça a été, pense à ça, Brendan, un 3 mois de gastro.
Incroyable.
Ça n'a pas de sens, là.
C'est des super-héros.
Ça a pas de... Mais pour vrai, oui. Elle a eu Alice, notre première. Puis après ça, elle a accepté de n'avoir un deuxième.
Oui.
Sachant très bien que le gastro, tout ça, ça allait revenir, là.
Oui, elle se replonge là-dedans, là.
Elle n'est pas saine d'esprit, ma blonde. Mais bref.
Mais je pense que ça, c'est
toi,
les mamans en général.
Ouais.
C'est un dévouement hors du commun. Hein? C'est un don de soi très profond, comme on dit.
Oui, oui, effectivement. Toi, comment ça s'est passé, tes grossesses? Est-ce que tu as eu ça, les tripes de bouffe puis des nausées à pu finir?
Écoute, moi, c'est drôle parce que au premier, à rien. Puis, tu sais, moi, là, j'ai commencé à avoir une bédaine à 7 mois. Tu sais, c'était vraiment comme... Tu savais pas que j'étais enceinte, là. C'était vraiment... Le premier, il se passait rien pendant tout.
Et puis, en plus, t'es quand même petite, là, pour dire à nos auditeurs, là, tu dois faire quoi? 5 et 6, peut-être? 5 et 7?
T'es fin. Je
mesure 5 et 3
à peu près.
5 et 3?
T'es quand même petite. Il dit 5 et 7. Moi, je fais un petit peu plus que 5 et 8. Mais voilà, chier, toi.
J'avoue. OK, c'était pas pour être fin. C'était pour planter une dague dans le cœur de Brendan.
Ouais, c'est ça. Et un ricochet.
Ouais, ouais.
Non, fait que c'est ça le premier. Moi, ça a été vraiment soft, là. Tu sais, une grossesse de rêve par l'accouchement parfait pour vrai, là. Easy.
Okay.
Puis le deuxième, ça a été tout l'inverse. Là. Ben, ça, lui, c'était beaucoup la fatigue, mais tu sais, finalement, j'ai été suivie. Là, le petit, dans le fond, là, il y avait un retard de croissance. Puis finalement, moi, j'ai fini en césarienne d'urgence parce que j'étais malade, mais il n'avait pas vu ça venir. Bref, ça a été comme l'autre extrême. Fait que, tu sais, c'est drôle que la même personne, on peut vivre complètement deux histoires complètement différentes. Tu sais, c'est ça aussi qui est la beauté de ça, c'est que notre corps, on contrôle absolument rien. Là. C'est on vit ça, puis on le vit avec notre histoire, puis ça fait ce qu'on est, puis un peu le cheminement qui vient dans... OK, je suis parent, c'est ça.
Ouais. Moi, là, ma première, tu sais, la deuxième, j'étais un peu plus rodé, veux pas, là, elle avait 2-3 ans, là, fait que j'étais plus habitué, mais ma première, là, j'étais en semi-choc post-traumatique, honnêtement. Puis même pas à cause de l'accouchement, là, parce que l'accouchement, ça s'est bien passé. Je me l'ai joué très entraîneur des Navy Seals. Là. Let's go, oh, let's go, let's go! Puis quand le tout a passé, je suis tombé comme une brique, puis j'ai dormi comme un bébé. Là. J'ai écoute, complètement scrappé. Mais honnêtement, là, le deuxième, Kim, ça a tellement été marquant parce que ma blonde a eu un problème quand elle a accouché, ou c'est peut-être la grossesse qui a fait ça, on n'est pas trop sûr. Là. Il y a comme un os qui s'est tassé ou un ligament qui aurait déchiré, on n'est comme pas trop sûr, là. Puis ça a fait un genre de symphyse qu'on appelle, je pense. Résultat, ma blonde a été paralysée pendant 3 semaines. Des jambes, ouais. Fait qu'elle n'a pas pu se lever. Je l'accouchais, il fallait que je la prenne, puis que je la couche dans le lit. Sauf que, tu sais, quand tu tiens quelqu'un dans tes bras qui a mal, le moindre mouvement que tu fais,
ouais.
C'est de la douleur épouvantable. Fait que je m'occupais des filles, puis tout ça. Puis là, rembarque là-dedans la culpabilité de la maman qui vient d'accoucher, qui était à fleur de peau émotivement, due aux hormones. Puis la culpabilité de ne pas pouvoir faire ce qu'elle voudrait faire pour sa famille. Ah non, la deuxième, ça a été tough. C'est pour cette raison, entre autres, que je suis pas trop sûr si la shop est fermée. Vous autres, Kim, êtes-vous décidé que la shop est fermée ou c'est encore des discussions?
Mais là, ça dépend à qui tu parles. Est-ce que tu parles à ma tête ou tu parles à mon cœur? Non, mais tu sais, parce que vu que j'étais particulièrement malade lors de l'accouchement du deuxième, tu sais, moi, dans le fond, il y a quand même un risque. Là. J'aurais pu y rester à William. Donc là, c'est quand même un enjeu que mon chum n'est pas prêt à prendre. Fait que... C'est ça, oui. Fait que ce serait sans doute le dernier. Mais si, mettons, je relativise, je trouve que ça fait du sens. Mais mon deuil n'est pas fait. Donc, on est là-dedans. Là, sauf que en même temps, il faut... maintenant on se raisonne puis on se dit c'est des choix d'adultes là, c'est pas une simple décision comme ça qu'on fait, tu sais, je pense que c'est sain de de le méditer, mais d'être aussi honnête là, donc voilà.
est-ce que les femmes font vraiment leur deuil tant que ça un jour, c'est ça que je me pose comme question?
Oh, il y en a que oui, il y en a que c'est très très clair puis qui l'assument, puis que tu sais oui, je pense que puis tu sais c'est vraiment une sorte de deuil, hein. Fait que tu sais sans nécessairement que ce soit des étapes là, très strictes, très prévisibles. Là. Chacun le vit à sa façon. Il y en a que justement, ils vont être dans l'acceptation, puis que tu sais, ça va pour eux, ça va de soi, ou tu sais, justement, ben, tu sais, la vie, ils sont comblés avec ce qu'elles ont là. Fait que tu sais, des fois, on veut pas défaire l'équilibre, tu sais, qu'on a trouvé. Fait que oui. Mais je vois aussi l'autre qui me ressemble un peu là, c'est que ben peut-être que si tu me donnes le choix mais fait que c'est ça, je pense que ça dépend aussi de la personnalité là. C'est, moi je m'aurais posé la question quand j'avais 20 ans, probablement je t'aurais dit je n'allais en avoir 6, fait que t'sais.
Ouais, t'avais pas de notion de l'inflation quand t'avais 20 ans.
Non, c'est ça.
Bon, good. Allez, on se lance dans notre sujet principal de la journée. Aujourd'hui, on traite de la discipline.
Hey, ça prendrait une
toune. Ah, quasiment, ça prendrait une toune de heavy metal, là, over the top. Il y a tellement de façons de voir la patente. Il y a tellement de façons. Puis je sais pas si t'es comme moi, mais avant d'être parent, avant d'avoir le nez dedans, je me disais, moi, là, ça va être le moins de discipline possible. Puis je vais essayer d'aller avec la conciliation. Puis le
ça va être mon body-body.
Ben, quasiment, tu sais, pas pastel. Là. Comment on est des chums? Mais je me dis, regarde, je vais tellement être cool avec que j'aurai pas besoin de faire de discipline. Mm-hmm. Mais quelle erreur! Mais quelle erreur de débutant qui a jamais rien vu.
Ben, en fait, on en a déjà parlé, tu sais, notre seule expérience de parents, c'est quand nos parents étaient nos parents puis qu'on était l'enfant.
Ouais.
Mm-hmm. Tu sais, fait qu'on devient parent au même titre que, tu sais, on apprend, là, tu sais, il n'y a pas de mode d'emploi, malheureusement. Donc, on c'est ça, hein, on se garoche là-dedans, la tête baissée, puis on se dit, puis tu sais, on fait, il y a ça a été étudié, ça aussi, là, en neurosciences, puis ils disent que, tu sais, l'idéal, là, on se fait une idée de notre enfant idéal, même quand, tu sais, durant la grossesse, là, on se fait une idée de notre enfant, de quoi qu'il aura l'air,
qu'est-ce
qu'il
y a.
Fait qu'on idéalise souvent, puis c'est ça, c'est aussi un double choc, là, tu sais, on se rend compte, hey, mon Dieu, t'as peur, là, tu sais, c'est pas à ça que je m'attendais, c'est pas ce que je m'imaginais. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, là, toute la OK, je réalise que là, c'est la réalité, puis que ça sera pas nécessairement comme je pensais, là, tu sais. Ouais.
Quand on est parti de l'hôpital avec la première, là, quand on est parti de Saint-François d'Assise, là, je me souviens encore très bien du feeling, là. J'avais la sensation claire dans ma tête, je me disais, ils me laissent partir avec, ils sont malades. Puis je suis pas un batteur, je suis pas un toxico, je pense que je suis un gars bien réglo, là. Mais j'en revenais pas qu'il me laisse partir avec un être vivant
malade.
Sans aucune formation, à part la formation, je sais pas si t'es eu toi aussi, Kim, là, mais la formation à l'hôpital où ils disent que si t'es vraiment choqué, t'es mieux de laisser broyer le bébé 15 minutes dans la chambre que de le fesser, là.
Oui, ben ça, c'est. Puis oui, ça a comme évolué, là, parce que moi, au premier, c'était genre, ils venaient te jaser dans la chambre, puis là, ils te parlaient pendant comme 25 minutes, puis là, tout était comme. C'est parce que là, moi, je vais être des années sans dormir. Tu peux-tu me laisser, là? Puis, fait que, finalement, on n'apprenait rien parce qu'on était toutes pas semi-conscients, là. Puis au deuxième, c'est ça, c'est comme un papier qui te laisse dans la chambre, puis à un moment donné, pouf, et, est-ce que vous avez rempli votre papier? Notre quoi? Je trouvais tellement que c'était comme loufoque, là, de la façon que c'était comme lancé, mais en même temps, c'est tellement pertinent, c'est tellement important.
Ouais.
Mais c'est comme une éducation qui est comme pitchée par la bande, puis c'est genre, OK, bon, ben. Puis effectivement, tu sais, je veux dire, les gens qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de, tu sais, qui ont pas de filet social, qui n'ont pas de, tu sais, qui n'ont pas d'aide à portée de main, c'est primordial, là, qu'ils se posent la question, puis OK, je me fais un plan. Sauf que je trouvais tellement que c'était OK, t'as peu, on est ailleurs, là.
Ouais, puis tu sais, les gens qui, comme tu dis, qui ont peut-être pas nécessairement le filet social, ou juste les gens qui, eux, c'est ça qu'ils ont appris. Quand ils crient, ils se font bardasser par leurs parents. Il y en a des gens qui sont passés par là, puis que leurs parents les ont trop bassés pour ce qu'ils auraient dû, tu sais.
Ben, c'est exactement ce que je disais, tu sais. La seule expérience qu'on a, c'est quand que nous, on était un enfant. Fait que, tu sais, c'est sûr que, on va systématiquement, on va avoir tendance à reproduire ce qu'on connaît parce que l'humain étant ce qu'il est, hein, on va pas aller nécessairement dans « Oh, moi, j'ai le goût d'essayer une nouvelle approche aujourd'hui, je me lance là-dedans et go, on verra ce que ça donne. » C'est assez rare qu'on est dans ce genre-là. Fait qu'on va généralement reproduire ce qu'on connaît. Puis effectivement, si je connais un pattern familial qui, tu sais, qui est plus ou moins adapté, je vais quand même le reproduire. Donc, c'est une roue qui tourne. Hein. Fait que oui, ça, c'est ça. Fait que ça a un impact malgré tout sur le futur, mais aussi sur le ici maintenant, quand je vois pas plus ce que je pourrais faire là, différemment. Là. Mm-hmm.
Je veux te confronter à la piste de réflexion. Je marche toujours de la même façon quand je sais qu'on va se parler le soir. Je réfléchis à notre sujet pendant que je fais mon vélo stationnaire, puis je me suis dit, quand je pense à la discipline, quelle est la première affaire qui me vient en tête? Puis le mot qui est remonté à la surface dans mon esprit, c'est vraiment constance. D'essayer d'être le plus égal possible. Ça a vraiment été sur quoi j'ai dû travailler en début de parentalité. Là. Très instable dans mes consignes. Des fois, hyper loose. Des fois, beaucoup trop sévère. D'être constant puis d'être égal dans mes demandes.
Ben, en fait, c'est la base. Hein. Puis, tu sais, constance, mais dans tout. Tu sais, autant dans la routine, dans nos attentes, dans notre répétition, tu sais, aussi simple que je vais dire les mêmes demandes de la même façon, ça va, j'ai plus de chances qu'il y a une collaboration en bout de ligne que si à chaque fois je change ma façon de faire, même si mon attente est la même, tu sais. Fait que c'est oui, puis constance, mais aussi dans nos, tu sais, dans notre contrôle, dans nos, tu sais, c'est vraiment au-delà. C'est la clé de la parentalité, en fait, là, c'est de pas s'attendre à avoir un résultat demain, mais de comprendre que à force de le faire de la même façon, avec le temps puis la maturité, on va voir les résultats, tu sais. Mm-hmm.
Crier aussi. À éviter. C'est, je m'enlignais là-dessus, là. J'étais pas en train de faire la promotion de crier. Ça. J'aime mieux le faire seul dans mon char, passer pour un esti de fou, là. Honnêtement, crier, moi, honnêtement, le message que je pense que ça envoie à ton enfant, puis à peu près n'importe quel âge, là, c'est papa, là, il a plus le contrôle. Papa, il sait plus quoi faire. Puis pour essayer de te ramener, mais au bout du compte, ça fait plus le contraire, ben, je crie dans le magasin.
Là, je vais faire mon épée, OK?
Vas-y.
Est-ce qu'il y a une différence, puis là, je pose la question à vous deux, là, et aux auditeurs aussi, si vous avez la réponse, est-ce qu'il y a une différence entre crier avec des mots, tu sais, « Hey, tu feras pas ça! » et juste crier. Pour surprendre, puis ils sont comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe?
Ben écoute, moi, je pense que la grosse différence, c'est la maladie mentale qu'on appelle. hurler un onomatopée, je pense pas que l'enfant va être surpris. Là. Je pense qu'il va dire, hey, maman a besoin de lithium.
Bipolaire. non, mais tu penses pas que ça pourrait faire en sorte qu'ils disent.
D'être saisi, peut-être. Ouais, d'être saisi. Peut-être. Écoute, je. Kim?
Il y a une technique d'intervention qui s'appelle, je me souviens pas du terme exact, là, je pense que c'est l'appel à l'action, quelque chose comme ça. Là. Puis, tu sais, c'est vraiment de saisir par l'intonation de la voix. Fait que ça va être vraiment de lâcher un cri pour saisir comme l'effet de surprise un peu.
Hey, oh, punk! Demain, genre!
C'est ça, donc.
Le contenu est peut-être à éclaircir. Ouais. Oui, ça existe. Est-ce que ça doit être, puis tu sais, pour vrai, c'est pas une technique que j'utilise. Est-ce que, je sais pas, moi, tu sais, là, j'ai mes deux enfants qui se tapent ta gueule, puis je pense que là, ils m'entendront pas, même si j'approche, puis que là, tu sais, je suis à une distance physique, puis que là, tu sais, je vois que ça s'envenime, de faire « Hey! » Puis là, tu sais, on fait comme saisir la surprise, et ils se retournent. « OK, parfait, là, je les sais. » J'ai comme le temps de me rendre, d'intervenir, tu sais, de les séparer physiquement. T'sais, peut-être que ça pourrait être une genre de technique qui pourrait être efficace. Cependant, c'est la grosse, mettons, warning que je pourrais dire, c'est tu dois être en contrôle. Parce que là, c'est sûr que si tu cries parce que t'es dépassé, t'es juste en train de crier, t'es pas en train d'intervenir. Fait ouais, que là, on est comme ailleurs. Là.
Puis je pense que t'envoies le signal. Je pense que les enfants, c'est pas des épais. Là. J'ai l'impression qu'ils perçoivent que maman ou papa est complètement débattie là, puis qu'elle a plus le contrôle de la situation. Là.
Oui, puis t'es mieux de le reconnaître justement que de les prendre pour des cartes puis de penser qu'ils s'en tirent. Oh, on va s'en sauver. Puis en fait, c'est être un modèle, hein, parce que, tu sais, les enfants, ils vont beaucoup imiter plus que ce qu'ils vont écouter ce qu'on dit. T'sais. Fait que, là, je sais pas si ma phrase était claire, mais tu sais, ils vont avoir beaucoup tendance à faire ce qu'on fait plutôt que d'écouter ce qu'on leur conseille de faire. Mm-hmm. Fait que, tu sais, moi, OK, ben là, je m'excuse, je vais aller prendre une petite pause. Écoute, maman là est en colère en ce moment où je suis un peu déçue. Laisse-moi quelques minutes. Dans quelques minutes, je vais aller te voir. OK? Fait que, tu sais, là, je reviens, je prends soin de moi, puis après ça, je m'en viens te voir. Je reviens, ce sera pas long. Là, ça, je suis en train d'enseigner à mon enfant que là, moi, j'ai eu une émotion en ce moment. Je la gère, puis après ça, je reviens à toi. Mmh. Fait que, tu sais, c'est toujours gagnant parce que dans le fond, là, ce qu'on veut, c'est qu'il apprenne à, finalement, lui aussi, un jour, à avoir ce retour-là, ce contrôle-là, ce retrait-là. Fait que, tu sais, c'est bien de le montrer, puis de montrer l'exemple, finalement. Fait que, tu sais, oui, ça, c'est tout à fait simple, puis je pense que c'est beaucoup plus efficace que de faire semblant que là, on gère tout parce qu'on crie. Là.
J'adore la stratégie, mais t'imagines, t'es au Canadian Tire. Là, papa est fâché, il revient dans 30 minutes. Reste dans cette allée-là que je te retrouve facilement. Il s'en va, il revient.
Mais il faut que ça fasse partie du plan de match.
Oui.
Quand tu fais un plan de sortie, puis là, tu sais, j'ai l'air un peu toqué, mais des plans, moi, j'en ai pour toutes. Un plan de sortie, c'est genre, OK, là, je m'en vais là. Est-ce que je sens que, tu sais, ma disponibilité affective aujourd'hui, est-ce que ça fait genre 3 nuits que je dors pas? Là, mon char marche plus. T'sais. Est-ce que mon timing de sortie avec les enfants, là, est-ce que je suis prête à affronter ça? Là? Ben, t'sais, si ma réponse est ben peut-être que je serais mieux d'attendre quelques instants, faire une petite pièce, puis peut-être y retourner plus tard. C'est ça qui est dans le meilleur des mondes. Mais effectivement, si je sens que je pourrais l'échapper au Canadian Tire, peut-être que je pourrais éviter le Canadian Tire.
Hey, tu vas probablement me dire qu'il y a une notion d'âge dans mon énoncé, là, mais est-ce qu'il est mieux de répéter une consigne jusqu'à ce qu'elle soit adoptée par l'enfant ou d'utiliser une stratégie que moi j'utilise rien qu'en masse, là, c'est que je donne des choix, mais je suis un snake in the grass, comme disait Arthur, parce que mes choix, quand tu regardes derrière, là, les deux sont à mon avantage. Tu comprends? Sauf que je donne, mm-hmm. je simule c'est l'impression. Ben écoute, est-ce que t'aimes mieux. On va aller. Regarde, exemple réel. Rosie, ma plus jeune, j'ai de la misère des fois à l'habiller pour aller dehors. OK? Puis, je dis, Rosie, t'aimes-tu mieux que ce soit papa ou maman qui t'habille? C'est un exemple qui me vient de même en tête. Mais tu comprends que moi, au bout de la run, est habillée.
Elle est habillée, oui. Puis t'espères qu'elle choisisse maman, mais ça, c'est une autre affaire.
Non, même pas, ça me dérange pas. Mais tu sais, au lieu de. Des fois, c'est plus tough avec moi, là. Puis maman, c'est sacré, là. Fait que des fois, elle dit, ouais, maman, puis regarde, elle est habillée. Qu'est-ce que t'en penses, Kim?
C'est extraordinaire. C'est ça qu'on veut. En fait, là, ce que tu lui apprends, c'est que tu lui donnes un peu de pouvoir. Parce que dans le fond, c'est souvent ça qui crée le tu sais, j'ai une frustration, puis là, je sens que j'ai pas de contrôle sur rien, fait que je vais péter les plombs. Fait que là, on lui remet du pouvoir où nous, on décide qu'elle peut en avoir. Ça pourrait être, est-ce que tu veux mettre les mitaines roses ou tu veux mettre les mitaines bleues? Ah, parfait, on met les mitaines bleues. Le but, c'est qu'elle les mette. On s'en sacre laquelle qu'elle met, tu sais. Fait qu'effectivement, c'est extraordinaire. Puis tu sais, en fait, ce qu'on lui montre aussi, c'est ben on fait des choix, tu sais, fait qu'on tu sais, il y a beaucoup de choses là, c'est parfait. Oui.
Puis c'est une stratégie, disons là de même là, que j'ai commencé à employer quand ma plus grande avait 2 ans, tu sais, justement le terrible two là, puis où est-ce qu'ils veulent s'imposer puis s'affirmer, puis c'est tout correct là, c'est juste sain dans un développement, mais tu sais, quand elle veut pas manger son restant de légumes, tu sais, tu dis, tu sais, dans ta tête, tu sais qu'il y a une portion minimale que tu veux qu'elle mange. Fait que tu lui dis, hey, Ali, est-ce que tu préfères juste manger ces 3-4 carottes-là ou manger tout le reste? Puis elle va faire le choix qu'elle voudra. That's it. You win.
You win.
Oui,
always.
Mais, ouais. Puis en même temps, elle aussi, parce que tu sais, en bout de ligne, elle va s'alimenter. Puis elle va avoir l'impression d'avoir elle-même décidé de ce qui s'en vient. Fait que. C'est win-win, finalement. C'est ça qu'on veut.
Ouais, faire attention des fois, parce que les jeunes aussi, ils peuvent avoir cette notion-là. Je te donne un exemple rapidement. Quand j'étais petit, je voulais un chien.
OK.
Mais j'ai pas demandé un chien. J'ai demandé un cheval. Puis tellement souvent, c'est venu le temps, un chien peut-être. Tu sais, un chien, ça te dérangerait-tu? Ben non, ça me dérangerait pas. C'est ce que je voulais depuis le début.
Ben oui, un master plan.
Master plan, moi.
Wow, très
bien. Tu vois, faire attention, des fois, les enfants, ils peuvent être brillants.
Oui, effectivement. Tu vois, dans les affaires que j'avais pensé te jaser, puis c'est drôle parce qu'on l'a abordé un petit peu au courant des dernières minutes, c'est la volonté comme parent, Kim, de vouloir gagner par-dessus notre enfant quand on applique des consignes. J'ai l'impression que, même si tu sais, c'est dans un but de vulgarisation, ce qu'on disait tantôt, là, I win, mais je suis pas sûr que c'est tant que ça l'attitude à adopter, de se dire je vais appliquer mes consignes pour gagner par-dessus mes enfants.
Ben, en fait, c'est que ça découle beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre éducation. Tu sais, dans le temps, c'était le respect de l'autorité à tout prix. C'était beaucoup les approches qui étaient préconisées, c'était beaucoup l'approche comportementale, un peu là, tu sais, renforcement basique et compagnie. Fait que tu sais, ça remonte vraiment à notre façon qu'on a été élevé. Maintenant, les courants en éducation, c'est beaucoup plus vers la bienveillance, vers l'approche émotionnelle. Tu sais, c'est beaucoup, on va être plus en accompagnement, je dirais, on va être plus en proximité, on va aller respecter aussi, aller profondément dans l'attachement, aller chercher la connexion avec notre enfant. Dans le fond, c'est que la relation, la connexion avec notre enfant devient le pilier de la parentalité. Mmh. Fait que tu sais, on est ailleurs, là, tu sais, je comprends que ma relation, c'est ce qui est le plus précieux, je vais pas nécessairement aller exercer un pouvoir juste pour avoir le pouvoir, tu sais. On n'est pas dans un
film de Marvel, là, tu sais, c'est pas...
oui, on n'a pas voyons, je vais pas le dire. On n'a pas une supériorité, si on veut, là.
Ouais, je comprends. Mais écoute, je veux juste... Je veux pas t'emmener non plus sur un terrain que te prendre au dépourvu, mais cette approche-là, là, d'être en accompagnement de l'enfant, est-ce que c'est un courant de pensée qui est planétaire ou bien c'est vraiment occidental comme façon de raisonner maintenant?
Ben en fait c'est très très européen, hein. Ben en fait puis là, c'est, je veux pas dire n'importe quoi, mais je crois même que certains pays en Asie, là, ça a été très en fait c'est comme une approche là très ça date à peu près d'une vingtaine d'années, si je me trompe pas. En Europe, ça a comme migré tranquillement. En fait, on est dans les derniers, hein, parce que en Europe, c'est très fort, là, même dans les écoles maintenant, là, on est vraiment dans cette approche-là, là, presque mur à mur. Il y a encore, ironiquement, la fessée qui est pratiquée dans certains pays européens. Puis là, il y a comme les deux courants qui sont très... en fait, il y a des gros chocs, hein, parce que c'est comme à l'opposé l'un de l'autre. Fait que là, il y a des grands... c'est ça, des grandes décisions, des grands sommets, beaucoup de chercheurs qui se sont penchés là-dessus. Là, on a comme un gros revirement, là, ce qui l'a amené justement en Occident. Puis c'est ce qui a créé un peu le mouvement ici. Fait que là, ça a été comme un peu les conflits d'idées puis les idéologies qui se sont, tu sais, qui ont comme été heurtées l'un l'autre. Puis justement, ben on s'est rendu compte que avec la neuroscience qui est sortie en même temps, là, dernièrement, c'est qu'il y a eu des grandes découvertes au niveau du cerveau, surtout le développement des enfants, et on s'est rendu compte que effectivement, pour avoir un cerveau qui, le développement est optimal, ils se sont rendus compte même que les cerveaux des enfants qu'on appliquait la bienveillance depuis certains moments, non seulement se développaient mieux, mais ils étaient plus gros, plus massifs, il y avait plus de connexions. Écoute, c'était, ah ouais, ça a été vraiment là phénoménal ce qu'on a découvert. Fait que effectivement, oui, c'est récent ici, mais c'est pas planétaire, mais je dirais que c'est très répandu, là, ouais.
Ok. Et il nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux quand même absolument aborder cet aspect-là. Mettons qu'on a un enfant qui est dans le trouble d'opposition. Tu sais, vraiment qu'il y a de la misère avec juste le concept de suivre des consignes. Puis ça, peut-être à toi de me le préciser, ça peut être dans un range de quel âge à quel âge. Là, tu sais, 2 ans, je comprends qu'on est dans le normal. Un trouble d'opposition à 8 ans, c'est-tu encore normal? Je te pose directement la question.
Il y a des troubles d'opposition qui vont jusqu'à 18-19 ans.
Oui, même. T'as bien raison. J'ai travaillé en radio avec du monde qui ont des troubles d'opposition. Ben, t'as bien raison.
Ben, en fait, un trouble, c'est quand c'est diagnostiqué. Hein? Donc, je peux avoir des traits d'opposition, là, que je systématiquement m'oppose à tout ce qui est règlement ou autorité. Ça peut faire partie de ma personnalité. Je revendique plus facilement. Par exemple, je m'affirme plus fort que la majorité des gens. Pour avoir un trouble, là, c'est vraiment à partir du DSM. Dans le fond, c'est que c'est que ça date depuis un certain temps. T'sais, on voit des comportements dès la petite enfance, puis on voit qu'il y a une récurrence dans les problématiques, dans les difficultés, au point où je deviens comme un peu dysfonctionnelle en fonction de cette opposition-là. C'est que je n'arrive pas à accomplir nécessairement mes mes tâches sociales ou tu sais un peu je fonctionne pas nécessairement comme je pourrais dans mon plein potentiel si on veut.
Okay,
donc là à partir de ce moment-là, j'ai un diagnostic par un professionnel, puis tu sais tout le processus là au même titre qu'un par exemple un TDAH ou un autre trouble là, je peux avoir une médication pour réduire mon impulsivité, je pourrais avoir une médication pour réduire pour contrôler mes humeurs. Ouais, au même titre qu'un autre trouble. Donc oui, c'est vraiment un trouble là, biologique. Donc il y a pas d'âge là, c'est sûr que c'est très rare qu'ils vont diagnostiquer ça très tôt parce que justement, il y a les phases développementales normales du développement qui peuvent coïncider avec l'opposition.
Ouais.
Mais fait que oui, je pourrais diagnostiquer puis l'avoir. Mais tu sais, les diagnostics, c'est toujours très variable. Hein? Je peux être diagnostiquée puis un jour plus correspondre aux critères diagnostiques, donc le perdre avec les années. Mais il n'y a pas nécessairement d'âge. Ça peut être vraiment, comme je dis, au cours du développement, on se rend compte que les problématiques prennent tellement de place que cette personne-là arrive plus à être en équilibre, donc on va l'aider puis on va voir que le diagnostic est posé.
Hey, mais les enfants qui sont médicamentés pour ce type de trouble-là, est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'on leur donne premièrement? C'est-tu de l'Ativan ou des cossins du genre ou du Ritalin pour leur impulsivité? Puis quel type de comportement ils viennent qu'à avoir un coup médicamenté? Ça me trouble un peu de savoir ça.
Ben en fait ça dépend, tu sais, puis là je suis pas pharmacienne, là je suis pas très bonne dans les molécules. Ce que j'en connais en fait là, c'est vraiment est-ce que puis tu sais c'est quand même des troubles qui sont complexes, tu sais, je peux avoir une majeure, tu sais, par exemple moi ça peut être vraiment l'impulsivité, c'est que là je m'oppose puis je suis tellement impulsif que je vais frapper partout, je vais lancer des choses, mais en même temps j'ai tellement pas de mèche qui m'arrête avant. Fait qu'on va essayer de réduire mon impulsivité pour me permettre d'avoir accès à ma cognition pour pouvoir après ça éventuellement faire un travail de réflexion puis pouvoir éventuellement me développer malgré cette opposition-là puis cette impulsivité-là. Fait que ce que la médication va faire, c'est que on va aller redonner une mèche, si on veut. T'sais, on va essayer de me rallonger ma mèche pour que j'aie accès un petit peu plus longtemps à ma cognition avant que mon cerveau déconnecte, là, un peu comme je vous expliquais l'autre fois. Fait que,
est-ce que ça se répercute dans un état de latence de l'enfant? Est-ce qu'il est plus amorphe pour avoir plus de mèches?
Je peux faire le parallèle un peu avec ce que je connais de la médication, mettons, pour le TDAH. Le TDAH, c'est vraiment un trouble neuro au niveau biologique. Hein, c'est comme si dans le cerveau, il y avait trop de portes ouvertes. Puis la médication, ce qu'elle fait, c'est qu'elle garde certaines portes pour que je puisse focusser sur ce que j'ai besoin de focusser au lieu d'avoir trop de messages puis de pas être capable de me concentrer. Fait que ce que ça fait, c'est que quand on en a vraiment besoin, parce que ça reste des troubles qui sont cognitifs là, biologiques. Donc quand j'en ai besoin, la médication va aller justement cibler. Ok, ben là je vais pas nécessairement aller dans l'extrême. Tu sais, je vais tomber complètement amorphe. Ben peut-être que là la molécule n'est pas adaptée. Tu sais, généralement ça rend juste la personne fonctionnelle. On va pas nécessairement avoir là des comportements qui sont tu sais dans l'extrême ou l'autre. Sinon on va ajuster la médication pour que le comportement soit pas, tu sais, la personnalité ne soit pas changée là.
Okay.
On évite là, à tout prix là tout ça là. Ouais.
Hey Kim, encore une fois hyper intéressant, merci. Puis aujourd'hui on touchait un sujet qui est on s'est promené ping-pong pas mal ce soir là, mais on touchait un sujet très sensible parce que quand on regarde les fameux palmarès, ça fait partie de mes recherches aujourd'hui, des regrets classiques chez les gens qui ont été parents. Tu sais, un coup que tes parents que tes enfants ont grandi puis qui ont parti de la maison là, quand on demande aux gens quel est votre regret principal, un de ceux qui ressort le plus souvent, c'est d'avoir trop réprimandé leur enfant.
Oui. Mais c'est contre-intuitif, hein? C'est ça qu'on se rend compte là. Justement, c'est ce qui fait que la bienveillance est de plus en plus une approche qui parle aux gens, c'est que c'est intuitif. Tu sais, c'est en lien avec nos valeurs. On va pas aller à l'encontre de ce qu'on ressent. Fait que ça fait comme beaucoup de sens au lieu de dire j'ai l'impression d'être tout le temps en train de chialer, tout le temps en train de voir le négatif, tout le temps en train d'intervenir, puis ça m'épuise. Mais effectivement, c'est peut-être que c'est contre nature, justement.
Non, c'est clair. Hey Kim, prends soin de toi. On se reparle la semaine prochaine.
Hey, merci beaucoup, les gars. Bonne soirée.
Salut, bye, toi aussi.
Bye.
Bye. C'était Kim Savard, qui est éducatrice spécialisée, coach familial. Vous pouvez la suivre sur Parents Forts-Midable sur Facebook.